au quotidien 5e édition avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes vendredi 16 décembre. Pour nous, c'est notre dernier vendredi de 2022. Parce que c'est congé la semaine prochaine. Le poste arrête ses activités régulières à partir de 21. OK, à partir de mercredi prochain, pour deux semaines. Alors, nous, on arrête pour deux semaines et on revient le 6 janvier. Mais pour être sûr que vous allez être avec nous, on va vous le redire avant la fin. Moi, je m'étais levé ce matin en me disant « Yeah! Il va y avoir plein de neige dehors pour célébrer notre dernière émission de 2022. » Et je regarde dehors, puis c'était comme les jours d'avant.
Mais quand vous allez sortir de l'émission, là...
Ah, oh, ben j'ai pris le métro aujourd'hui. Puis là, je sors de la station de métro, toi, avec de la neige, du vent, du froid. Yeah! C'était ça. Francine, vous êtes venue à pied, vous?
Je suis venue à pied et j'ai vécu un petit phénomène un peu comme le vôtre. Moi, je suis sortie. Il tombait quelques flocons. C'était tout gentil, c'était tout doux sur la peau. Et j'arrive au coin d'une intersection importante, René Lévesque et de Bleury.
Oui.
Et là, j'attendais pour traverser. Et tout à coup, c'est comme une rafale qui est arrivée. Et c'est la neige qui arrivait. C'était vraiment particulier. C'est comme l'histoire quand... On l'a peut-être déjà vécu, mais souvent on a entendu parler. Il pleut l'autre côté de la rue et il pleut pas chez vous. Oui. Mais c'est l'impression que j'ai eue ce matin.
Ah,
très
donc
particulier.
Vous étiez à l'automne d'un côté de la rue puis à l'hiver de l'autre côté.
Je dirais un petit hiver doux et tout à coup une tempête.
Good. Et Mathieu?
Oui.
Des fois, vous venez à vélo, mais là, j'ai entendu dire que vous avez un pneu qui a décidé de...
Oui. En fait, je pense que mon vélo a lu la météo à venir, puis il s'est dit non, là, il s'est dégonflé pendant la nuit.
Il s'est dégonflé.
Donc, je suis venu à pied.
Ah, c'est une bonne promenade de chez vous?
40 minutes. 35-40 minutes.
Oui, puis vous disiez que vous auriez eu besoin d'essuie-glace dans vos lunettes.
Oui, ben je pense que comme tous ceux qui portent des lunettes, n'est-ce pas, ma chère Francine, et vous, mon cher Ivan, on a besoin de d'improviser son chemin parce que souvent, on ne voit rien.
C'est ça.
Dans le cas de Francine et moi, c'est plus une question d'âge. Vous, je ne sais pas.
Ben oui, j'ai l'âge...
J'ai l'âge d'avoir des lunettes.
J'ai l'âge d'avoir des lunettes qui s'enneigent comme tout le monde.
Alors, c'est une merveilleuse journée d'hiver.
Et ce sera comme ça tout le week-end. Donc, ce sera beau. Ce sera beau. Il
oui.
faudrait être patient et se laisser aller dans cette neige.
Ben, ce midi, avec ma conjointe, avec Marie, qui va lire des histoires de Noël sur Canal M, on va chercher notre sapin.
Voilà, c'est le temps.
C'est le temps, hein? Puis on se sent dans l'atmosphère à ce moment-là. Francine, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine?
J'ai plusieurs choses. Je vais essayer de faire rapidement parce que je sais que vous allez me regarder avec des gros yeux
non,
autrement.
Non, je fais jamais ça.
Jamais? C'est juste une perception. Alors bon...
On fera pas nos chicanes en
OK,
nombre.
Je pourrais prendre le temps que je veux donc pour vous parler allez. De ces trois faits importants pour moi cette semaine qui sont de nature, je vous dirais pas de nature égale.
Hivernale.
Bon, d'abord, chapeau à la Banque de Montréal, à la BMO, qui reprend « Faites une différence emballante ». Alors, qu'est-ce que c'est « Faites une différence emballante » ? C'est du papier d'emballage recyclable que la banque fait faire. Sur ce papier qui est très coloré, il y a toutes sortes de produits. Il y a aussi un code QR. Et
oui,
il y a un code QR. Et au bout de ce code QR, quand on l'a enregistré, on arrive sur Pinterest. Et sur Pinterest, on arrive à des entreprises et des produits détenus ou faits par des femmes.
Oh!
Alors, la Banque de Montréal soutient l'entrepreneuriat féminin depuis plusieurs années.
D'accord.
L'année dernière, elle avait lancé « Faites une différence emballante » et cette année, elle le reprend. Alors moi, je suis allée chercher mon papier. C'est pas compliqué. Vous vous présentez à une banque et vous demandez au comptoir. Ils vont vous remettre une enveloppe et dans cette enveloppe, vous avez plusieurs feuilles de papier pour emballer vos cadeaux.
Je note.
Notez parce que ça vaut la peine, sérieusement,
je vais le faire,
ça encourage l'entrepreneuriat féminin. Et comme c'est encore pour certains le temps d'aller acheter les cadeaux, ben voilà, vous allez peut-être avoir certaines idées en regardant sur Pinterest. Et c'est très beau, la présentation.
Bien sûr.
Deuxième fait saillant pour moi, bravo à Xavier Dolan qui s'en va à Sundance avec sa mini-série. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu.
J'ai regardé le premier épisode. Je ne sais pas si on parle de la même chose.
Oui, mais... la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. En fait, c'est la seule série qu'il a faite. Hein?
C'est ça.
Oui. Est-ce que vous avez aimé le premier épisode?
Je ne le sais pas.
Vous ne savez pas? OK, alors continuez.
Parce qu'on présente les personnages, c'est un peu mystérieux.
C'est un peu mystérieux, mais c'est à la manière Dolan.
Oui, oui, oui.
Mais je dois vous dire que moi, j'ai aimé d'emblée, mais j'aime beaucoup Xavier Dolan. J'aime beaucoup sa cinématographie. J'aime ses images léchées.
Oui.
J'aime ses dialogues percutants. Et cette fois-ci, je trouve que l'adaptation de cette pièce de Michel-Marc Bouchard est très réussie. J'ai des gens que je connais qui l'ont écouté puis qui ont eu plus de difficultés, mais je vous dirais qu'à la fin du deuxième épisode, vous allez être embarqué. C'est généralement ce que j'ai constaté.
Est-ce que vous aviez vu la pièce?
Oui, j'ai déjà vu et lu, oui.
D'accord.
Oui.
Parce que moi, j'ai eu des billets pour la pièce et il est arrivé une affaire comme la COVID, je pense. Puis
OK.
Finalement,
bon,
je l'ai pas vu.
De toute façon, je vais vous dire qu'il a construit son univers autour de cette pièce.
D'accord.
Et quand je dis d'univers, c'est l'univers de la famille Larouche. Dernière chose avant de vous remettre le micro, merci aux fondations scolaires. Je prends le temps de dire merci parce que cette semaine, dans la Presse Plus, il y a eu un reportage sur les fondations scolaires que moi, j'ai trouvé un peu négatif, qui disait que c'était un moyen,
oui, oui, oui,
entre autres, c'était pas juste négatif, mais de créer encore plus d'inégalités entre les écoles. Et comme j'œuvre dans ce milieu, je vous dis, écoutez, c'est vrai, peut-être, mais regardons aussi ce que ça permet de réaliser dans plusieurs écoles où on n'aurait pas les moyens de mettre en œuvre des projets pédagogiques ou encore des activités si ces fondations n'existaient pas.
Et c'est un engagement des parents aussi.
Exactement.
Dans leur école.
Engagement des parents dans leur école, vous avez tout à fait raison, pour le bien-être des enfants, de leurs enfants qui sont là et pour ceux qui viendront.
Moi, de mon côté, ben, je vous parle pas de la petite fille qui s'est faite heurter par une voiture, parce que vous, Francine, allez en parler, je pense, dans la couverture des Unes. Je vous parlerai pas de la COP15, parce que je vais en parler plus tard pendant l'émission. Je vous parle d'une expérience rapide. J'ai chanté hier avec l'Orchestre symphonique de Montréal, avec la première fois que j'allais voir un concert de Raphaël Payarès. C'était fantastique. J'ai beaucoup aimé ça. C'est terminé. On peut pas. J'ai beau en parler beaucoup, mais il y a pas d'autres présentations.
C'est pas retransmis quelque part?
Ah, ça, je le sais pas. J'ai pas vérifié. C'est vrai que dans le passé, quand il y avait les émissions de Noël avec Fred Pellerin, entre autres, c'était retransmis. Mais dans ce cas-là, je ne sais pas. Mais on faisait partie des chœurs. Le public faisait partie aussi des chœurs. On avait des paroles à chanter. C'était merveilleux. J'aimais ça. Puis il manquait juste la neige. Il y en a ce matin. Fait que je suis très heureux. Très, très heureux. On surveille quoi dans notre émission d'aujourd'hui?
Bien, sur le thème de Noël, Marcel Dugas, notre historien, va nous parler des cadeaux de Noël qu'on échangeait en 1903. Alors, on recule. Moi non plus, donc ça va être intéressant.
Mm-hmm.
On va recevoir Julie Simard. Alors, je ferai une entrevue avec elle dans Au-delà des limites. Julie Simard, qui est une jeune femme, qui va au-delà de son Parkinson.
Voilà.
Et vous allez recevoir...
Moi, je reçois Carole Froment. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour parler d'un guide sur le sexe. Mais là, on revient à des choses plus, ben, normales. Le sexe est normal aussi, hein, quand même. Mais on va parler de la programmation de janvier. On va parler d'escalade. Alors, vous pensez des personnes qui ont des difficultés motrices qui font de l'escalade. J'ai très hâte d'en parler avec Carole Froment. Et plein d'autres choses dans notre émission. Comme vous voyez, on a un air un peu guilleret. Alors, on s'en va tout de suite vers une chanson de Noël.
Jesus. danser partout, des serpentins en reprenant les refrains. Et s'embrasser devant témoins sous le gui ou dans les coins. Tu auras un certain petit frisson. Devant témoins sous le gui ou dans les coins. Danser autour divers sapins en se frappant dans les mains.
C'est partout des serpentins en reprenant les refrains et s'embrasser devant témoins sous le gui ou dans les coins.
Tu auras un certain petit frisson.
Un duo.
Oui, une animatrice et un membre de Sale Barbe. Tiens. Alors, Marie-Ève Descendre, non, Janvier et Jean-François Brault. J'ai découragé Mathieu avec ma mauvaise blague. Allons-y.
Mais ils sont capables tous les deux de s'harmoniser et de chanter.
Oh, à plusieurs niveaux, il semble qu'ils s'harmonisent.
Oui. Évidemment, vous ne serez pas surpris que je vous dise que la biodiversité et la COP 15 occupent une large place dans nos médias nationaux ce matin. Dans la Presse Plus, on apprend que l'arrivée des ministres donne un nouveau souffle à cette COP 15. Éric-Pierre Champagne, dans son écran, nous dit que les discussions de haut niveau à la COP 15 qui ont commencé jeudi, c'est le président chinois Xi Jinping qui a donné le signal de départ de ces 4 jours de négociations intenses. Il n'était pas ici. Je vous vois me regarder avec des points d'interrogation dans les yeux. Il était... Non, il n'est pas venu rencontrer son ami Justin Trudeau. Il a fait ça par visioconférence. Revenons plus sérieusement à cette COP 15. Donc, on dit que l'entrée en scène des ministres a jeté comme un vent d'optimisme sur la réunion qui, jusqu'à maintenant, on avait l'impression que ça piétinait. Plusieurs intervenants interrogés par Éric-Pierre Champagne soulignent le fait que ça a complètement changé l'atmosphère et que là, on sent qu'il y a vraiment une ambiance positive et qu'on est prête à surmonter les désaccords qui subsistent. Alors, c'est ce qu'on dit, grosso modo, sur ces rencontres qui ont commencé, je rappelle, hier. En même temps qu'on a cette manchette à la Presse Plus, on souligne que les OGM dominent les champs. Au Québec, les champs de maïs et de soya, les organismes génétiquement modifiés occuperaient aujourd'hui 81 % des 750 000 hectares de maïs, grains de soya et de soya qui poussent au Québec. C'est un bond spectaculaire depuis 15 ans. Alors, c'est loin d'être rassurant. Si je poursuis avec le Journal de Montréal, on est un peu dans la même veine, dans le sens qu'on nous parle des champions de la pollution, je devrais dire des championnes, des 100 entreprises du Québec qui sont les plus polluantes. Alors, c'est un beau répertoire, hein, n'est-ce pas?
Dans le contexte.
C'est dans le contexte, oui. Alors, dans la section enquête, Annabelle Blais et Charles Mathieu parlent des géants qui polluent encore plus. Alors, en près de 10 ans, les 100 plus gros pollueurs du Québec ont jamais émis autant de gaz à effet de serre. Donc, on ne cesse d'augmenter le pourcentage de mégatonnes qu'on produit dans l'univers, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, c'est sûr qu'on parle beaucoup d'entreprises qui sont liées à des cimenteries, par exemple, à l'huminerie. C'est ça qu'il y a dans la liste qui... Bon, alors, on cherche évidemment à réduire. On dit qu'on va réduire éventuellement de 3 à 8 mais en
est-ce
fait...
Est-ce que c'est suffisant?
Est-ce que c'est suffisant? On ne sait trop. Et en plus, on sait que les indicateurs sur lesquels on s'entend ou encore qu'on annonce ne sont pas souvent atteints. Il ne s'agit pas d'être, défaitiste, mais un peu réaliste, n'est-ce pas, par rapport aux cibles qu'on se fixe.
Oui, mais mettons que le passé ne nous permet pas d'être extrêmement optimiste.
Voilà, c'est ça. Et en plus, c'est que toutes ces entreprises-là continuent d'être financées, à même le fonds vert, parce qu'elles font posent certains gestes, mais qui n'ont pas, qui n'arrivent pas aux conclusions auxquelles on s'attend.
Oui, puis en même temps, c'est des entreprises qui font travailler beaucoup de gens avec des salaires intéressants. Le dilemme est pas banal, ça, il faut l'avouer.
Enfin, pour terminer sur l'environnement, coup de froid dans l'industrie du GNR. Alors, la filière québécoise de la biométhanisation, alors qui est composée de plusieurs petites entreprises, dénonce le tapis rouge que déroule Énergir devant le géant danois Nature Energy. En fait, c'est qu'il y a une entente qui a été signée entre Énergir et Nature Energy. Et il faut savoir que Nature Energy est une filiale de Shell. Donc, qui pourrait recevoir des centaines de millions de dollars en aide publique pour produire du gaz naturellement renouvelé. Ça a secoué beaucoup, beaucoup les dirigeants de petites entreprises dans ce domaine qui, malheureusement, on ne peut plus s'exprimer ouvertement autant qu'ils l'auraient voulu parce qu'elles sont liées, ces entreprises, à Énergir. Voilà. J'arrive avec la sécurité routière. Le devoir aux barricades pour freiner la domination de l'automobile. Alors évidemment, la mort de cette fillette heurtée par une voiture à Montréal qui s'appelait Maria Legenskova soulève la mobilisation citoyenne. Marco Forti nous en parle. Cette jeune Pakistanaise de 7 ans, rappelons-le, ukrainienne, c'est parce que ça s'est passé au coin des rues Parthenay et Rouen. Alors j'ai fait un drôle d'amalgame, mais c'est une Ukrainienne qui est morte. Et encore une fois, dans son article, Marco Forti revient sur des modèles qu'on a connus dans d'autres pays et qu'on pourrait implanter ici, comme par exemple dans les Pays-Bas, où maintenant on partage vraiment la voie publique.
Oui. Oui, il y a d'autres endroits, arrondissements à Montréal qui ont fait des choses aussi intéressantes, les trottoirs en saillie, entre autres, des choses de ce genre-là. Mais je pense que vous en parliez hors d'onde tantôt, c'est le respect des automobilistes quelque part qui est à défaut. Là.
C'est très difficile. L'éditorial de Marie-Andrée Chouinard, « Piéton en danger », alors se penche sur cette question et elle dit que la population est impuissante face à ce drame-là. Ça fait plusieurs, depuis quelques semaines, là, 6 piétons sont décédés dans le Grand Montréal des suites d'une collision avec un véhicule. Alors, c'est pas un bilan qui est très, très reluisant.
Et la température était belle, là. Il n'y a pas de tempête de neige, il n'y a pas rien.
Il n'y a rien qui explique ça. Puis oui, on pourrait faire plus, mais hier, la conseillère municipale de cet arrondissement a bien expliqué tout ce qui avait été fait à la suite de la fermeture d'Hippolyte Lafontaine. Et pourtant, rien n'est fait parce que les automobilistes ne respectent pas, justement, ce qu'il faudrait faire. Donc, les passages piétonniers qui colorent les chaussées, on ne les respecte pas et c'est un danger. Alors, il va falloir réfléchir autrement parce que la reine incontestée du parc routier, ce sont les mots de Marie-Andrée Chouinard, il va falloir qu'il y ait des changements et que peut-être elle abdique un peu de son royaume.
Oui, bien sûr. Et maintenant, on se tourne vers l'Estrie en écoutant Charlie Brown en arrière-fond. Et c'est la lutine de l'Estrie qui va nous parler. Monique,
Bonjour.
Comment va la voix?
Ben, ça va un peu mieux. C'est moins cassé qu'hier, je crois. Alors,
mieux qu'hier et moins que demain?
Ben, en tout cas, j'espère que demain, ce sera encore mieux. Vous avez déjà parlé de biodiversité, mais je ne peux m'empêcher de souligner la chose suivante. Il y a plusieurs maires et mairesses qui ont donné leur appui au projet Accélérer la conservation dans le sud du Québec, jeudi, en marge justement de la COP15. Alors, parmi eux, on retrouve notamment la mairesse d'Eastman, ma municipalité, Nathalie Lemaire, Vinciane Peters de Boldness, la mairesse de Granby, Julie Bourdon, notée trois femmes, et le maire de Bromont, Louis Villeneuve. Il faut dire que c'est dans le sud de la province que l'on retrouve la plus grande concentration de biodiversité, mais aussi d'espèces menacées du Québec. Alors, à titre d'exemple d'action posée, ben, entre autres, Corridor Appalachien, c'est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de protéger les milieux naturels de la région des Appalaches du Sud du Québec et qui possède en ce moment 15 000 hectares d'air protégé. Eh bien, elle a été mandatée par la municipalité d'Eastman pour mener une étude floristique et faunique. Alors, bravo à toutes ces initiatives pour les Appalaches du Sud. Maintenant, je vous parle de générosité. Alors, l'organisation de la Fondation Christian Vachon met les bouchées doubles en ce moment afin d'atteindre l'objectif de 60 000 $ qui permettront de soutenir l'achat de cadeaux de Noël pour 15 000 enfants de la région, 1 500 enfants de la région, mais c'est quand même un record jamais atteint pour cette fondation qui est située à Magog et qui a comme mission le développement, la persévérance et la réussite éducative des jeunes issus des milieux vulnérables en leur fournissant du matériel scolaire, des vêtements d'enfants, des repas, des activités sportives et culturelles et ce, à travers plusieurs écoles, entre autres primaires de la région. Alors, quand des parents sont désignés pour recevoir un don, eh bien, ils se présentent à un magasin partenaire de l'organisme, par exemple une librairie, un vêtement, une boutique de vêtements. Ils choisissent un cadeau, ils se présentent à la caisse en mentionnant qu'ils sont soutenus par la fondation. Si tout concorde, eh bien, on leur accorde un crédit de 40 $ et le magasin est ensuite remboursé par l'organisme, ce qui est assez différent. Oui. Le cadeau n'est pas remis, donc, sans que les parents aient un choix à faire. Et les parents se disent charmés par cette formule parce qu'ils ont l'impression de poser un geste concret pour leur enfant et ça les met dans l'esprit de Noël. Si vous avez le goût de faire un don à cet organisme, alors vous avez juste à saisir Fondation Christian Vachon dans votre moteur de recherche. Vous arrivez à un très beau site où vous pourrez faire un don pour qu'ils puissent arriver à leurs 60 000 $ Mardi dernier, ils étaient à 50 000. Alors maintenant, je vous parle d'une femme extraordinaire qui a été nommée parmi les 100 femmes noires les plus prometteuses au Canada en 2022. Elle s'appelle Magali Broder et elle a de quoi occuper ses journées. Médecin de famille, professeur, chercheuse et maman. Alors, cette cherbourgoise s'épanouit dans chacune des sphères de sa vie en priorisant le plaisir. Elle est née en République dominicaine, puis adoptée toute jeune par un couple cherbourgois. Madame Magali Broder a fait son bout de chemin en s'intéressant à tout. Elle est spécialisée en économie de l'Université de Sherbrooke. Elle a poursuivi ses études en histoire politique, toujours à Sherbrooke. Bon, elle avait encore le goût d'apprendre et s'est inscrite au doctorat en sciences humaines appliquées à l'Université de Montréal, puis pourquoi pas finir par un doctorat en médecine de l'Université de Sherbrooke.
Ben oui.
Alors, finalement diplômée en médecine de famille depuis 2020, eh bien, Magali Broder se consacre à la rédaction d'un guide afin d'orienter les pratiques des médecins canadiens pour la prise en charge du trouble lié aux jeux de hasard et d'argent. Alors, je terminerai en vous disant qu'elle nous dit que tout est possible dans la vie, il faut agir dans le plaisir et il faut croire simplement en soi. Alors voilà, c'était les nouvelles sous la neige de l'Estrie.
Oh oui, est-ce qu'il neige beaucoup dans votre côté?
Il neige, mais c'est pas sous forme de tempête, ça tombe tout droit, et là, déjà, le sol est redevenu blanc parce que c'était plutôt rouillé.
Bravo! Je vous souhaite de très belles fêtes, et un grand merci de nous faire connaître un peu ce qui se passe du côté de l'Estrie. Vous faites un travail superbe.
Ben, merci beaucoup, et je vous souhaite à vous deux, Francine et toi, de joyeuses fêtes, un joyeux Noël tout blanc, en famille, en santé, je l'espère.
Pareillement, beaucoup. Monique.
Puis on se reparle le 6 janvier.
Oui.
Au revoir.
Au revoir.
Du côté de l'Outaouais, le gouvernement du Canada a tranché. Après plus de 2 ans de télétravail, les fonctionnaires fédéraux devront revenir au bureau de 2 à 3 jours par semaine. Et Antoine Trépanier, le journaliste du droit, fait le point sur cette nouvelle qui est loin de faire l'affaire de tous. Et je vous en parle un tout petit peu. C'est Emma Garand qui nous en parle. Elle est fonctionnaire à Emploi et Développement social Canada. Elle est sous le choc. C'est que le gouvernement laissait entendre dans les derniers mois que les ministères et agences avaient la responsabilité de gérer la présence des fonctionnaires au bureau. On se faisait dire que ça allait être graduel, sans gros changements du jour au lendemain. Et là, on apprend ça, explique-t-elle encore surprise. Depuis 2 ans, elle vit le rêve au travail. Elle se dit plus productive, plus rapide, moins stressée, faire plus économe et avoir une meilleure qualité de vie. On a des super belles conditions de travail et je veux que ça se poursuive comme ça. Pour moi, c'est le travail, c'est le télétravail qui répond à ça. Alors, je pense que ça va être un débat. Là, on vit le débat dans la capitale nationale, mais c'est un débat qu'on va vivre probablement dans toutes les grandes villes. Parce que s'il n'y a pas de retour non plus au travail, c'est la vie des grandes villes qui est touchée. Du côté du soleil à Québec, dans les dernières élections, on a parlé beaucoup de la sécurité des députés et puis des chefs de parti. Les policiers étaient omniprésents et plus nombreux autour des chefs durant la récente campagne électorale. Et ça a coûté 2 fois plus cher pour la sécurité de ces gens-là. Il y a un article là-dessus dans Le Soleil. La Sûreté du Québec a dépensé 5 millions de dollars aux dernières élections. C'était la moitié lors de l'élection précédente. On prend une courte pause et au retour, Francine va parler avec Julie Simard de la façon dont elle vit son Parkinson. Alors, à bientôt.
Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
Reste là, ne bouge pas, le temps que la beauté se fige, le temps d'apaiser les vertiges que nos corps nous infligent.
Dans la moiteur de la chambre, dans le silence de l'abandon, essayer de se persuader que ce n'était pas si bon.
Quand deux corps se rencontrent, font leurs aveux, que l'on soit pour ou contre. Qu'on y peut.
Nous resterons immobiles, dociles comme ces statues de marbre qui sont poussières nues et fragiles que personne ne regarde.
Que l'amour dure une vie, qu'il meure à la fin de la nuit. Ce soir, tu seras mon trésor, l'extension de mon corps.
Se rencontrent, font leurs aveux, que l'on soit pour ou contre, au fond, qu'est-ce qu'on y peut.
Que tu restes ou que tu t'en ailles, que ce soit grandiose ou banal, qu'importe si nos deux vies déraillent.
quand mon corps est contre le tien, j'oublie qu'un jour on aura mal, je me fous d'hier, de demain. Quand deux corps se rencontrent, font leurs aveux, que l'on soit pour ou contre, au fond, qu'est-ce qu'on
Pierre Lapointe et Clara Luciani qui chantaient « Qu'est-ce qu'on y peut? »
Julie Simard, bonjour!
Bonjour!
Comment ça va ce matin?
Ça va bien, oui.
Alors, on va passer les prochaines 10 minutes avec vous. Quand je dis « on », je suis en compagnie de Yvan Deslauriers, qui est aussi co-animateur à cette émission.
Bonjour, Madame Simard.
Bonjour.
Julie Simard, je vous ai présenté d'entrée de jeu en début d'émission comme une femme curieuse, déterminée, malgré le fait qu'elle ait reçu un diagnostic de Parkinson à 40 ans. Mais j'aimerais ça que vous fassiez peut-être une brève présentation de vous-même. Julie Simard, par elle-même, je vous écoute.
On va commencer avant la maladie. Ça va aller vite. C'est que j'étais une femme qui était quand même assez active, tout ça. Je faisais plein de choses. Puis du jour au lendemain, la maladie est arrivée dans ma vie, c'est arrivé assez vite.
Ça a été quoi vos premiers symptômes, Mme Simard?
Mon premier symptôme, ça a été mon côté droit paralysé au complet. Je ne bougeais plus, j'avais des raideurs, des lenteurs, je ne comprenais pas. J'ai passé à travers beaucoup d'examens à l'hôpital parce que c'est rare, le Parkinson, c'est chez une jeune femme, donc on va se le dire.
Oui.
Fait qu'ils ont comme fait plein d'examens, ils se sont aperçus que c'était ça. Ça, c'est là que j'ai eu le choc de la vie, comme on peut dire. Là.
Mm-hmm.
Alors, je me suis dit, bon, ben c'est soit qu'on abandonne ou qu'on continue. Donc, j'ai foncé dans la vie.
Est-ce que vous aviez une activité professionnelle à ce moment-là? Ou...
Oui, j'ai dû cesser de travailler parce que la concentration n'y était plus. Je ne conduisais plus non plus. J'ai rendu un danger. Là. Je ne peux pas conduire paralysé d'un côté droit au complet. Là, ça s'est dégradé, tout ça. J'ai dû arrêter de travailler. Oui, effectivement.
Alors, le premier choc passé, je comprends que vous aviez déterminé que la détermination, justement, ne vous empêcherait pas de faire ce que vous aviez le goût de faire.
Oui, c'est ça. J'étais déterminée. Alors, j'ai continué à faire du ski, de la motoneige. Un jour, j'ai eu un déclic dans la tête. Quand j'étais en motoneige, j'ai eu la difficulté à tourner le volant dû à mon Parkinson. Donc, j'ai dû avoir des deuils. Il y a des deuils tout au long de cette maladie-là, des deuils simples comme ne pas faire de la motoneige. C'est peut-être très, très banal pour les gens, mais pour moi, c'était très important.
Le ski, donc, est-ce que ça va quand même?
Non, là, j'en fais plus. Je ne veux pas tomber sur ma tête à cause d'un DBS dans la tête.
D'accord.
Je comprends cependant que vous avez poursuivi avec des activités sportives ou nécessitant, je dirais, quand même une bonne condition physique.
Oui. Bien, les jours, c'est sûr que le stress est beaucoup présent dans cette maladie. C'est ça qui fait que le stress, la maladie va dégrader plus vite. Si on a un stress intense, on ne fonctionne pas. Le lendemain matin, je peux être super bien. C'est au jour le jour, cette maladie-là.
C'est au jour le jour. Et vous faites, j'ai cru comprendre que vous faites du yoga, du pilates, vous faites certaines activités justement pour vous aider à diminuer ce stress.
Oui, c'est ça. Je fais l'exercice parce que l'exercice est prouvé qu'avec le Parkinson, ça atténue les douleurs puis atténue la maladie. Ça, c'est prouvé. Puis moi, je peux dire que oui, c'est vrai.
À tous les jours?
Je continue à le faire. C'est sûr que je ne fais pas tout, mais maintenant, avec l'opération, je suis capable de tout faire.
Et qu'est-ce que vous faites aussi comme autre activité physique?
Bien, je m'entraîne beaucoup. Je cours beaucoup à la course. Je fais de la musculation, je fais de la natation. Je donne des cours de pilates. Je suis très active.
Vous donnez des cours de pilates à des gens qui ont une condition semblable à la vôtre ou en général?
En général.
Oh, c'est bien quand même. C'est bien.
Oui. Mm-hmm.
Et vous...
Oui, il y a moyen, il y a possibilité de vivre avec cette maladie-là. Si on n'abandonne pas, on ne baisse pas les bras, il y a possibilité. C'est sûr que c'est dur à tous les jours, mais faut, on est vivant, on est là.
Est-ce qu'il y a des jours, justement, où vous vous sentez proche, peut-être un peu plus proche de l'abandon?
Je l'ai senti avant l'opération. J'étais rendue vraiment... Ça a été vite, la maladie, pour moi. Si l'opération ne fonctionnait pas, j'ai pensé longuement et sagement ma décision qui a pris, ce que je demandais là, à mourir. Fait que c'est ça, j'ai eu des moments très difficiles.
Et après ça, vous avez repris le dessus et depuis ce temps, c'est sur la bonne voie.
Mm-hmm, oui, ça va super bien. C'est vraiment, il faut se parler tous les jours. C'est continuel. On se lève le matin, on est raqué, on a mal. Il y a des choses qu'on fait pas. Ça va dépendre. Fait que c'est toujours des petits deuils. Bon, aujourd'hui, c'est comme ça. Je vais faire comme ça. C'est toujours une adaptation au continuel, au quotidien.
J'ai vu aussi que vous faisiez de l'art, hein? Vous peignez, c'est ce que j'ai compris.
Oui, je peins aussi. Ça a été tout un processus.
Pourquoi vous aviez pas fait de peinture avant?
Non, j'avais jamais fait de peinture avant. Maman est peinte, là. Peut-être que j'ai ça dans les gènes, je sais pas. Mais quand on tremble par une peinture, c'est pas évident.
C'est pour ça que ça m'a beaucoup impressionné quand j'ai vu votre vidéo. Si vous me permettez, là, je vais vous dire que je vais dire à nos auditeurs que sur Parkinson Québec, on peut voir une vidéo justement vous montrant en train de faire plusieurs activités. Alors donc, j'ai trouvé que c'était pas évident.
Oui, c'est pas évident, c'est sûr, là, mais faut s'adapter. Il faut vraiment s'adapter. Puis si on pleure tout le temps, c'est pas ça la vie. Donc c'est sûr que si on fonctionne toujours avec un sourire, on avance, on fonce, on essaie. Il faut essayer plein d'affaires.
Mais sur le plan artistique, est-ce que votre mère vous a aidé? Parce que quand même, ça prend une certaine technique pour réaliser ce que vous faites, le genre de toile que vous faites.
Non, je ne veux pas me vanter, mais j'ai pas de cours, j'ai rien. Ma mère, je suis partie toute seule à peindre, à peinturer, puis ça a sorti comme ça. Puis je me suis dit, ben voyons, je suis bonne.
C'est naturel, c'est bien. Mon collègue a une question à vous poser.
Oui, Mme Simard, vous avez parlé à quelques reprises de deuil. Est-ce qu'il y a des découvertes aussi? Est-ce qu'il y a des choses que vous pratiquiez pas auparavant? On parle de la peinture, entre autres, mais que vous avez découvert à cause de l'évolution de votre maladie?
Pas tout à fait. J'ai plus changé la personne, l'être humain. Ça, j'ai beaucoup changé. J'ai vraiment... on n'a plus le même regard, on n'a plus la même pensée, on n'a plus la même sagesse, on n'a plus la même vieillesse, on n'a plus la même âme. Donc ça a changé la personne en totalité pour moi.
Concrètement, quel changement ça a apporté? Pouvez-vous nous en parler un peu plus?
Oui, mais les changements que ça a apporté pour moi, ça a été d'accepter. Parce qu'avant, j'étais une personne qui fonçait, qui faisait plein de choses, puis qu'il n'y avait personne pour l'arrêter. Donc, il fallait que je m'arrête, je me pose, puis j'accepte. Fait que l'acceptation, ça a été une thérapie énorme pour moi, parce qu'on est tout seul à la faire, il n'y a pas personne qui peut nous aider. Donc ça a été, je vous dis, un bon an, ça a duré un processus, c'est très long, d'acceptation.
Est-ce que vous avez eu de l'aide dans ce processus-là?
Mon entourage.
Votre entourage, beaucoup d'appui de votre entourage immédiat et pas nécessairement juste de professionnels là, qui pouvaient vous soutenir.
Non, du tout. J'ai pas pris possession des professionnels, comme on dit. Là. Ma famille a été très présente. Toujours là, ils ont accepté. Ils me regardaient pas. Parce que le plus dur, je pense que c'est pour moi, mais ça a été le regard des autres. Quand j'allais faire les commissions, j'allais dans des boutiques, des choses comme ça, parce qu'on est pas normal, comment qu'on bouge. Ça a été le regard des autres. J'ai eu beaucoup de gens méchants avec moi dans les magasins, des choses comme ça. Moi, j'ai une pancarte handicapée, juste un exemple, pour me faire fainer. Mm-hmm. Combien de fois je me suis fait faire des insultes par des gens, avec des gens qui me disaient que j'avais volé la pancarte ou que je profitais du système. Tu sais, fait que la maladie est très dure dans la société pour moi. Elle était très dure.
Tout ça vous empêche pas cependant ce regard qu'on porte sur vous et votre maladie, vous empêche pas d'être très présente sur les médias sociaux?
Oui, effectivement, je suis présente parce que je veux que les gens comprennent que c'est une maladie qui existe parce que le monde pense que c'est grand-papa, grand-maman que ça. Je veux que le monde le sache puis qu'on est des personnes normales, on peut vivre normal pour les gens qui ont la maladie.
Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous dire sur quels médias sociaux vous êtes présent?
Je suis sur Facebook, Instagram aussi.
Facebook et Instagram, parce qu'en fait, je ne sais pas, peut-être vous n'aimerez pas mon terme, mais moi, je voyais ça un petit peu comme une influenceuse, mais dans le bon sens du terme, justement, là.
Oui, bien, c'est ça. Je suis comme un peu, moi aussi, je le prends comme ça, mais sans aller influencer. C'est une certaine clientèle, comme on dit. Puis, je vais aller l'entourage de cette clientèle-là pour qu'ils apprennent à comment être avec ces gens-là.
C'est bien, en tout cas.
Oui, je touche quand même tout le monde.
C'est très bien. Alors, en tout cas, j'invite les gens à joindre votre Instagram et à vous demander à devenir votre ami Facebook. Yvan, est-ce que tu avais une autre question?
Oui, mais je regardais un peu sur le site de Parkinson Québec là, et je vous, je vous ai rencontré. Bonjour. Et, oui. Parkinson Québec, est-ce qu'il est de grande aide pour les gens qui ont cette maladie?
Je veux pas me prononcer. Il est très présent, on le voit partout, sauf que je le vois pas présent. Moi, quand j'étais diagnostiquée, j'ai pas rien eu. On m'a pas donné de place à aller ou de ressources, il n'y a rien eu. C'est pas comme un cancer du sein, là.
Je comprends.
C'est vraiment, on vous laisse seul à vous, puis c'est comme vous débrouillez-vous, puis allez sur Google, puis googlez. Mais faut pas faire ça.
Je comprends. Donc,
en dernier lieu, avant qu'on se quitte, Mme Vincent, j'aimerais ça vous...
Mme Simard.
Mme Simard, excusez. j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de votre projet de conférence.
Oui, bien, c'est ça. Je suis en train de préparation pour des projets de conférence pour aller voir les gens puis qui me voient. Parce que le monde, j'aime se comparer, ça, c'est ça, parce que je l'ai fait. Donc, voir le monde, leur dire qu'on peut vivre, qui poser les questions, les vraies questions aussi, parce qu'il y a beaucoup de dommages collatéraux alentour de la personne et de cette maladie qui nuit sur le couple. Donc, je veux être présente pour ces gens-là. Je veux qu'ils savent qu'on est là. Je veux être une référence parce qu'il n'y en a pas. Non, j'en vois pas nulle part.
Quel beau projet. On vous soutient, Mme Simard, et on vous remercie beaucoup d'avoir clôturé notre année 2022 avec nous. On vous souhaite un joyeux temps des fêtes et peut-être qu'on trouvera le moyen de se reparler en 2023. Merci.
Merci, au revoir.
Laurence Nerbonne qui chantait un classique, Marie-Noël.
Pour ma Marie, qui, c'est sa chanson favorite du temps des fêtes, mais ça, c'est une version que je pense qu'elle ne connaît pas. Je vais vérifier ça tantôt.
Bonjour Marcel Dugas.
Bonjour.
Alors, on parle de Noël parce que c'est notre thème aujourd'hui, mais là, vous nous amenez en 1903.
Oui, ben c'est une tradition depuis que je suis chroniqueur à Au quotidien. À ma dernière intervention avant Noël, je fais le tour des journaux d'une année en particulier pour voir ce qui s'offrait chez nous comme cadeau pour les fêtes. Des fois, c'était à Noël, des fois, c'était au jour de l'an, ça dépendait des familles. Et on remonte, il y a 119 ans, 1903, et ça vous surprendra peut-être, mais Noël était déjà une fête commerciale à ce moment-là. Les journaux de décembre 1903 sont tapissés de publicités, de suggestions de cadeaux et de Père Noël. On l'appelait Santa Claus à cette époque-là. Je n'ai pas vu de vocable français, mais on le voyait absolument partout. Voici donc mes suggestions de cadeaux pour Noël 1903. Ce qu'on offrait le plus à l'époque, c'était des vêtements de toutes sortes. Je vais passer rapidement sur tout ce qui est vestimentaire. Je veux plutôt regarder ce qui nous est proposé d'offrir, qui sort un peu de l'ordinaire. Les bijoux, c'est classique, n'est-ce pas? Il y en a certains qu'on ne voit plus très souvent de nos jours. Exemple, des châtelaines. C'était une sorte de boucle qui se portait à la taille, d'où pendait un nombre variable de chaînettes. Et au bout de ces chaînettes-là, on pouvait accrocher toutes sortes de choses. Une montre, un flacon de parfum, une breloque quelconque. Mais ça pouvait avoir une fonction utilitaire, notamment dans la haute société au 19e siècle. En 1903, évidemment, on est presque encore au 19e siècle. La dame de la maison possédait les différentes clés qui ouvraient les pièces qui étaient barrées ou encore les armoires où on plaçait l'argenterie, peut-être un vase précieux qu'on sortait seulement dans les grandes occasions, et les clés étaient accrochées à sa châtelaine. Les domestiques devaient donc venir demander à la dame de maison d'ouvrir les différentes portes. Ça confirmait son statut de chef des domestiques et d'autorité dans la maison, d'autorité ménagère, évidemment, surtout quand l'homme de la maison n'était pas là.
Aujourd'hui, on dirait que c'est une geôlière, quasiment, avec ses clés attachées à la taille.
Ben, ouais, il y avait un petit peu de ça, mais en même temps, c'était à la fois élégant et utile dans ce contexte-là. C'était quelque chose qu'on utilisait pour se parer à ce moment-là, mais quand on avait beaucoup de clés comme ça, c'était plus chic que d'avoir l'espèce de gros trousseau de clés là, qu'on voit dans les genre de films de cow-boy, là, où il y a toujours la prison, enfin bref. Oui. Je reviens à mes bijoux qu'on offrait, des lorgnettes. C'est un terme qu'on utilise rarement dans son sens premier de nos jours. Autrefois, c'était des lunettes tenues au bout d'un bâton qu'on plaçait élégamment sur son nez en cas de besoin, qu'on retirait après usage. Il y avait la version opéra aussi, où les lunettes étaient remplacées par des jumelles. Ça se donnait à cette occasion-là. Et plus chic encore, vous pouviez offrir des vinaigrettes. Vous avez sûrement déjà vu dans des séries, des films d'époque, des dames qui s'évanouissent de manière très théâtrale et on essayait de les réanimer en leur tapotant la main, en leur faisant respirer des sels. Bien, au 18e et au 19e siècle, on vendait des vinaigrettes. C'était des petits contenants que les femmes pouvaient avoir dans leur sac ou porter sous forme de bijoux, de pendentifs, de bagues et s'y trouvaient un morceau d'éponge imbibé de vinaigre aromatique. Donc, une femme atteinte par les vapeurs, comme on disait à ce moment-là, ouvrait le couvercle de sa vinaigrette et une bonne grande respiration lui permettait d'éviter l'évanouissement. Peut-être cherchez-vous plutôt dans le cadeau religieux et non dans la bijouterie. Ça aussi, c'est très populaire. Il y avait un magasin de Montréal qui offrait tout ce dont on avait besoin en matière de cadeaux religieux. Surtout, on vendait une variété sans pareil de chapelets. On en avait en nacre, en cristal, en améthyste, en saphir, en topaze, en grenat, en rubis, en opale, en émeraude et en coco monté en argent et en or. Ouh, je vais reprendre ma respiration.
Oui.
Très souvent dans les publicités, vous savez, on en beurre épais pour essayer d'impressionner les clients potentiels. Mais dans ce cas-ci, je pense que quand on disait qu'on avait une variété sans pareil de chapelets, c'était effectivement vrai. Les articles de sport, c'était très populaire. Les patins, les bâtons de hockey en frêne ou en orme, on est loin des bâtons en graphite d'aujourd'hui. Des pucks de hockey, je ne sais pas si le terme rondelle n'avait pas encore été inventé, mais c'était un bon moment pour offrir des articles de hockey à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas à ce moment-là de glace artificielle. La saison de hockey ne commençait pas au mois d'août, même pour les plus jeunes, comme c'est le cas maintenant. Donc, vous receviez de l'équipement de hockey. C'était à peu près juste au bon moment pour pouvoir commencer à l'utiliser. Il y avait toutes sortes d'autres jeux aussi, des jeux de quilles, toutes sortes de choses, les jeux de table, le parchési, le solitaire, ou encore le Alabama Coon. Là, on est ailleurs. C'est un jeu qui, sous différents noms, a connu une assez grande popularité à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Vous aviez une tête d'homme afro-descendant avec une physionomie très, très exagérée, une très grande bouche, et il fallait lui lancer des balles dans la bouche.
Oh mon Dieu!
Oh là là!
C'est tout, il n'y avait rien d'autre. Je ne sais pas, ça amusait les gens pendant combien de temps, mais vous pouviez offrir ça pour Noël. Faisons un arrêt au rayon des jouets. C'était déjà très, très important. À l'époque, tous les magasins se vantaient de leur sélection de jouets. Pour les filles, eh bien, c'était les poupées, avec tout ce que vous pouvez imaginer qu'une poupée peut utiliser. Et c'était pas mal tout. Il n'y avait plus de variété pour les garçons. Les petits gars aimaient les soldats de plomb, c'était très populaire. On pouvait leur offrir aussi des fusils complets avec baïonnettes. On espère que c'était des fusils à air avec des baïonnettes jouets, c'était pas précisé. Les garçons étaient fascinés aussi par les pompiers, déjà à ce moment-là. Vous pouviez acheter à votre bambin une voiture de pompiers en fer qui venait avec le cheval et le chartier, parce qu'on n'avait pas encore de voiture de pompiers automobile à ce moment-là, ou très peu. On proposait aussi une panoplie d'instruments de musique, que ce soit des tambours, des trompettes, des carillons, des accordéons, des cornemuses. Je ne sais pas ce que j'aurais eu le moins envie de donner à mes enfants entre un tambour et une cornemuse, mais enfin, ça, c'est autre chose. Mais la vraie question, que donner aux enfants qui ont déjà tout? Je suis tombé sur une suggestion intéressante.
Je m'excuse, Marcel, ça existait oui. aussi à cette époque, des ouais. enfants qui avaient tout?
Ouais.
Moi, j'ai toujours eu l'impression que non, mais...
Mais il y avait, effectivement, parce que des fois, il fallait, et c'est la publicité sur laquelle je suis tombé, des fois, il fallait vraiment essayer de trouver quelque chose qui sortait du cadre, qui sortait de l'ordinaire.
De l'ordinaire.
Et on pouvait... s'empresser de venir choisir nos lots avant Noël, vous pouvez faire un présent très profitable à vos enfants en leur offrant un terrain au parc Amherst. Le parc Amherst, c'est un projet de développement résidentiel qui couvrait une partie des quartiers actuels de Rosemont et de Villeray à Montréal, autour de ce qui est l'avenue Christophe-Colomb. La propriété du parc Amherst est la plus belle, la plus élevée et la plus salubre de l'île de Montréal. J'ai pas vu de prix, malheureusement. On parlait d'une petite somme comptant et la balance par léger paiement mensuel. Mais effectivement, c'est pas nécessairement un cadeau avec lequel on peut jouer comme ça le matin de Noël quand on le reçoit. Mais à long terme, c'était probablement mieux qu'un accordéon ou une cornemuse.
Vous êtes biaisé, là.
C'est pas faux. C'est pas faux, je vous l'accorde.
Mais c'est un leg, ça, c'est pas un cadeau.
On le présentait vraiment comme ça dans la publicité, évidemment. C'est quand je vous dis que c'était une fête commerciale à ce moment-là, même les développeurs industriels disaient « ça pourrait faire un bon cadeau. Nous, on n'a pas nécessairement un produit, on vous offre pas nécessairement des vêtements, des fourrures, des choses comme ça, mais ça pourrait servir de cadeau de Noël. » Et je vois que le temps file, je veux terminer là-dessus en vous parlant, en revenant en fait sur Santa Claus. Je vous disais qu'il était partout dans les journaux à ce moment-là. C'est un magasin qui s'appelait la compagnie F. Carsley, qui est installée rue Notre-Dame et rue Saint-Jacques à Montréal, qui a gagné la saison publicitaire de Noël cette année-là. On nous a fait suivre les péripéties de Santa Claus, parti du pôle Nord à bord de son vaisseau volant avec sa grosse cargaison de jouets à destination du magasin. Il envoyait des télégrammes au gérant du magasin où il racontait avoir dû se battre contre des hordes d'esquimaux cannibales féroces. C'était l'époque. Il a échappé à un serpent de mer en sautant dans un sous-marin. Bref, pour pouvoir arriver à sa grotte où les enfants pouvaient aller le visiter, pour 5 sous, vous aviez une photo, non pas avec le Père Noël, mais une photo du Père Noël et un sac de bonbons. Il y avait des animaux, il y avait toutes sortes de choses. On essayait vraiment d'attirer la clientèle des enfants qui venaient en même temps s'acheter un cadeau qui n'était pas un terrain au parc Amherst. Il ne me reste qu'à vous souhaiter, Francine, Yvan et à tous les gens qui nous écoutent, un très joyeux Noël 1903 et une excellente année 1904.
Oui, mais nous, on va se transporter en 2022 et on va vous souhaiter de joyeuses fêtes et on se retrouve le 6 janvier en 2023.
Tout à fait, joyeuses fêtes à vous aussi.
À vous aussi.
Merci.
« Francine, une courte par actualité, s'il vous plaît.
Oui, très courte avant de vous céder la parole pour ce qui s'en vient dans la dernière demi-heure. Je vous parle de bracelets. Vous connaissez les bracelets Fitbit, Apple Watch, etc., dont oui, on se sert beaucoup pour mesurer nos pas, notre pouls, etc. Bon, mais semble-t-il que bientôt, ça va pouvoir nous servir à détecter de façon précoce des maladies comme des cardiopathies, l'apnée du sommeil ou le Parkinson.
Un AVC, on peut-tu?
Ben là, on parle de cardiopathie. Est-ce que ça va aller jusque-là? Je ne sais pas. Mais disons qu'il y a des gens de Harvard qui travaillent là-dessus et il y a aussi un projet à l'Université de Montréal, au centre... Université McGill, excusez-moi, au Centre universitaire de santé McGill. Alors, c'est à surveiller. C'est à surveiller. Ça serait quand même une très belle nouvelle.
Alors, je suis toujours avec cette musique de Charlie Brown, Merry Christmas. En dernière partie de notre dernière émission de 2022, on va faire une suite sur la chronique de la semaine dernière de Francine, sur le chat GPT prise 2. Déjà, on est rendu à la prise 2. Et je vais aussi parler avec Carole Froment du Centre d'intégration à la vie active. On va parler de programmation plein air de janvier, de danse, expression corporelle et d'escalade. Alors, à tantôt.
Cinquième édition avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Alors, Francine, on fait une suite sur un sujet de la semaine dernière. C'était le fameux chat GPT qui permettait par l'intelligence artificielle de créer des réponses, des essais en fait, qui pourraient être utilisés dans des travaux universitaires, n'est-ce pas?
Entre autres. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est pas juste ça. Il n'y a pas cette limite-là. C'est pas juste des travaux universitaires. Oui, je voulais faire une suite parce qu'on en a parlé brièvement. Parce que aussi, vous m'avez dit, qu'est-ce que ça veut dire, GPT?
Oui.
Alors, c'est Generative Pre-trained Transformer. Alors, c'est ça pourquoi, pour moi, ça n'avait pas vraiment d'importance.
Oui, je suis d'accord
avec vous.
Mais
maintenant, on le sait. Maintenant, on le sait.
On va l'oublier tout de suite.
C'est basé sur une intelligence artificielle qui a été développée chez OpenAI. Et vous pouvez aller sur OpenAI si vous voulez vous mettre sur la liste d'attente accéder.
Ah oui, c'est pas comme ça.
Ben, je pense qu'ils sont trop populaires.
D'accord.
C'est un phénomène, c'est le cas de le dire. J'y reviens aussi cette semaine le plus sérieusement parce que on en a parlé toute la semaine. Il y a eu beaucoup d'échanges, d'articles et tout ça dans certains milieux, dont le milieu de l'enseignement supérieur avec qui je travaille. Et je sais que aussi sur, dans les milieux artistiques et tout ça, on en a beaucoup parlé. Cette IA, donc, est à la fois extraordinaire, mais en même temps n'est pas sans danger. Mon intervention est basée sur un site qui s'appelle le Big Data. Le texte a été préparé par Bastien L. et ça a été relayé par Bruno Guglielminetti, qui, comme vous le savez, suit activement tout ce qui se passe dans ces domaines. Ça a été relayé sur son infolettre ce matin. Cette semaine, excusez. Donc, c'est un tsunami. Bon, je pense que c'est le mot est tout à fait approprié. C'est un tsunami là, qui vient de nous arriver, qui nous a frappé de plein fouet. Il y a des artistes qui sont mécontents, il y a des gens qui sont dans des domaines, comme je disais, de l'enseignement qui s'inquiètent énormément. Depuis quelques semaines, alors c'est à la fin novembre que ça a été lancé dans l'univers, il y a plusieurs millions d'utilisateurs qui se sont tournés vers cette IA dans le monde entier, qui suscite chez eux de la fascination et de l'inquiétude. Il y a comme deux groupes. D'ailleurs, dans l'enseignement, je regardais cette semaine dans les échanges qu'on avait, certains disaient, ben oui, mais mettons-nous à pied d'œuvre et on va commencer à travailler avec ça. Mais c'est sûr que ça apporte des changements très importants. Alors, qu'est-ce que le chat GPT? C'est un chatbot. Alors, ça, on connaît ça sur les sites, comme je l'ai mentionné la semaine dernière.
On connaît ça.
Sur les sites, ben, quand vous allez sur un site, il y a quelqu'un, des fois, qui arrive, que vous ne voyez pas, mais vous voyez sa boîte.
Oui, c'est vrai.
Et sa boîte dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Avez-vous une question à me poser? Alors, cet engin est capable de comprendre un langage humain et de générer de l'information. Ce qui distingue ce chat présentement, le GPT, c'est que lui, il est capable d'en faire de façon impressionnante. Alors, comment ça fonctionne? Donc, c'est créé à partir, évidemment, d'une infrastructure qui est basée sur un apprentissage, donc beaucoup, beaucoup de données à partir de feedback humain. Et dans ce cas-ci, comme on dit en bon français, le fine-tuning, il est possible d'en faire.
Okay.
On se rend très, très loin parce que les conversations ont toutes été faites par le biais d'entraîneurs humains qui ont été dédiés à la cause. Qui a créé ce chatbot? Alors, c'est la dernière création de OpenAI, comme je l'ai mentionné, qui est une entreprise indépendante financée par Elon Musk.
Ah, il est là, lui aussi.
Il est là. Alors, donc, vous ne serez pas étonné de savoir qu'il va avoir, évidemment, un lien avec Twitter éventuellement. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Twitter est supposé passer de... Hein, au départ, là, c'était très limité en nombre de mots. On n'arrête pas d'en ajouter. Et lui, ça a l'air qu'il veut se rendre à des messages de 4000 mots. On verra bien.
Oui, quand même.
Oui. Oui, donc il fait un lien entre tout ça. À quoi ça sert? Bon, alors on a parlé évidemment à générer des textes dans les pour faire des essais. D'ailleurs, cette semaine, dans le milieu universitaire, il y a un article qui a beaucoup circulé qui disait que « the essay is dead ». Alors c'est fini, on ne pourra plus faire d'essais parce qu'à l'université, si on demande des essais, probablement qu'on va avoir des affaires qui ont été produites par des machines.
Déjà mâchées autrement.
Quasi parfait. Alors, ça peut servir à écrire des scénarios. Écrire un scénario à partir d'une simple description. Un tout petit, et puis on part et le scénario est fait. On a, je ne sais pas si vous connaissez cette série Rick and Morty, moi je ne connais pas ça, c'est très présente, semble-t-il, dans le monde alternatif. Alors ils ont pris quelques éléments de cette série-là, qui est une série d'humour dessin animé, et on a été capable de faire on a été capable d'en reproduire d'autres épisodes avec le même type d'humour et avec le même esprit qu'il y avait derrière le dessin animé. D'ailleurs, ce matin dans Le Devoir, parce que dans Le Devoir, on a consacré une page complète encore ce matin, il y a des inquiétudes artistiques par rapport à ce type de projet. Vous devinerez que les droits d'auteur, n'est-ce pas, peuvent être facilement bafoués. Des essais scientifiques, alors non seulement des essais que je dirais de nature peut-être simple à développer, que tous on peut développer quand on a été capable de justement saisir à quoi servent les arguments et qu'on a développé une pensée critique. Au-delà de ça, on parle de des essais scientifiques. Des essais scientifiques dans des sciences dures, comme on dit, et en architecture, par exemple. Ce matin, dans Le Devoir, encore une fois, deux chercheurs de McGill, c'est un article d'Alain McKenna qui rapporte leur expérience, qui ont été capables d'utiliser l'IA pour déterminer comment les médias auraient pu traiter différemment l'arrivée de la COVID au Canada. Donc, présenter un portrait qui, basé toujours sur des données, aurait résulté entre une façon peut-être plus objective de présenter la chose. À partir de ça, on peut se poser la question, et Alain McKenna le pose dans son texte, est-ce qu'à ce moment-là, les journalistes deviendraient plus objectifs? Et la réponse, c'est non.
Ben, en fait, les journalistes pourraient devenir obsolètes aussi.
Je ne sais pas. Ça, c'est toujours la crainte. Moi, je suis fasciné par ça, et je me dis, utilisons le pouvoir que ça peut nous donner, mais arrêtons de craindre. Je veux dire, justement, si on craint, on fera rien pour essayer de surmonter tout ça. Raconter des blagues aussi. Alors, ils sont capables. Alors, par exemple, un humoriste pourrait mettre quelques-unes de ses blagues et la machine est partie. Et puis ils vont nous sortir d'autres
blagues.
Oui, du même type.
Mon Dieu, je pourrais peut-être devenir bon à dire des blagues. Ça pourrait m'aider.
Peut-être, peut-être.
On part de loin, là.
Oui, je continue. Décorez votre salon. Bon, alors vous avez un style à la maison,
oui.
Vous envoyez des images et puis, ben là, vous dites, moi, je veux décorer mon salon, vous lui donnez un certain nombre de données, je sais pas moi, l'espace, vous conservez des meubles ou pas, et puis, whoop, on arrive avec des idées pour décorer votre salon.
Là, c'est le monde des designers qui commence à trembler. Hein?
Oui, et Queen K devrait s'inquiéter parce que semble-t-il que les poèmes... donc, c'est ce robot, hein, cette intelligence artificielle est point sensible, oh que non, capable de faire des poèmes et aussi capable de composer de la musique. Alors, mon style, je le mets dans la machine et il va me sortir une autre toune.
Aïe, aïe, aïe.
Sans effort, sans trop d'efforts.
Je pense que j'aime pas ça.
Oui. Et enfin, je vais terminer avec ça parce que, bon, il y a toutes sortes de choses, là. Mais la dernière, c'est que, par exemple, moi, je pourrais prendre, je sais pas, vos tweets ou encore vos messages Facebook, mm-hmm. Je les mets dans la patente et puis il en sort d'autres. Et moi, je vais être convaincue que c'est vous qui les avez écrits. Parce que ça va reprendre le type de message que vous faites, le genre d'intervention, à quel moment vous les faites. Et aussi dans votre style, évidemment.
Ça a toutes sortes d'implications, puis on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Mais souvent, hein, les politiciens, on leur dit « Ah, oh, vous avez dit telle chose en 2000, quelque chose. » Mais ça pourrait être vrai comme ça pourrait avoir été inventé. C'est ça que vous êtes en train de dire.
Il y a déjà eu du... tu sais, quand on reprend les grands... Bon, on a fait ça avec Obama, là.
Oui,
on reprend son portrait, on imite sa voix et tout ça. Mais ça va encore plus loin.
Ouf.
On va y revenir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions éthiques. Et comme je vous dis, c'est le sujet de l'heure.
On retourne vers Noël.
Des amours épris, c'est la peau.
Maryse de Tarte et sa chanson Boum Boum.
Et je me tourne vers Carole Froment, qui est toujours, j'espère, coordonnatrice au développement philanthropique et aux communications au Centre d'intégration à la vie active, au CIVA. Bonjour, Carole.
Bonjour, Yvan.
La dernière fois qu'on s'est parlé, vous lanciez à ce moment-là le guide Sexualité et handicap, un guide pour les personnes aidantes. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça?
Écoutez, on a de la demande, de la demande, de la demande à travers le Québec. Comme la fois passée, on a toujours plus de demandes. Puis, on aimerait beaucoup y répondre début 2023 avec une nouvelle réimpression des guides. Jusqu'à présent, on en a envoyé autour de 2500 partout au Québec. Puis, wow. Je vous dirais qu'on a une demande pour au moins le double présentement. Puis, on reçoit des coups de téléphone au bureau de personnes qui nous demandent quand c'est qu'on les reçoit, quand c'est qu'on les reçoit. Mais bon, en tant qu'organisme de charité, nous, on est tenu, on dépend du financement qu'on reçoit. Donc, on est en train de regarder qui pourrait soutenir le projet pour qu'on puisse réimprimer ça. Mais en attendant, on a sorti une version numérique aussi qui est disponible sur notre site web, toujours gratuitement. Puis, je ne sais plus si je vous avais donné l'information, mais on espérait aussi avoir le soutien nécessaire pour pouvoir sortir un livre audio aussi début 2023.
Ah, ben je prends note et puis on lance ça dans les ondes. Il y a peut-être quelqu'un qui va lever la main. Peut-être nous autres, en fait. Hein?
Ben, oui, je me suis déjà tournée vers Visévoix, je vous avoue. Puis, si jamais je reçois le financement nécessaire, on fera affaire avec Visévoix.
Hey, ça va être avec grand plaisir. Maintenant, on se tourne vers votre programmation déjà du mois de juillet 2023.
Du mois d'hiver. 2023,
du mois d'hiver, oui.
Du
oui.
mois de janvier.
Oui.
Juillet, c'est encore un peu loin. oui, on a lancé cette semaine la programmation hivernale, donc pour les inscriptions à partir de janvier. Donc, on roule toujours avec nos activités régulières, sportives, culturelles, pour ceux qui veulent venir faire du basket, du rugby, de l'art ou encore du cirque social. Mais on a surtout relancé la programmation hivernale de plein air. Donc là, on va proposer 8 activités de janvier à mars, donc dans différents parcs à Montréal, le parc Jean-Drapeau, le parc Maisonneuve, à Cap-Saint-Jacques, puis encore d'autres parcs. C'est gratuit. Donc, à partir du moment où vous êtes membre du CIVA, c'est gratuit. Puis, la première activité est toujours gratuite. Vous pouvez venir faire un essai, voir si vous aimez ça. On rappelle aussi qu'on offre un service de prêt de matériel de plein air adapté. Donc, pour ceux qui voudraient aller pratiquer en famille, en autonomie, entre amis, ça vous prend un $25 d'adhésion annuelle au CIVA. Puis vous pouvez emprunter le matériel de votre choix gratuitement. On a des luges de ski de fond, on a des luges de patinage sur glace, on a des skivelles, on a des jouellettes, on a des fauteuils tout terrain. On a plein de choses pour vous, donc n'hésitez pas à nous appeler, à demander de l'information.
Donc, est-ce qu'on peut devenir membre à travers votre site ou il faut vous appeler?
Non, à travers notre site. Sur le site internet, sur la première page, généralement, tout est pas mal indiqué. Il y a les onglets programmation, les onglets services, les onglets prêt de matériel, devenir membre. Puis, en cas de doute, toujours, on est là pour répondre au téléphone, puis pour répondre aux questions et pour aiguiller aussi dans le choix du matériel, parce qu'on a quand même une expertise ici au bureau pour vous conseiller en fonction de votre limitation fonctionnelle, vous dire qu'est-ce qui serait le plus adapté à vous, puis avec quoi vous aurez le plus de plaisir en extérieur, parce que ça reste quand même des efforts physiques.
Oui, et on a parlé cette semaine, vous et moi, des personnes qui ont des limitations physiques et qui font de l'escalade?
Oui, on collabore assez régulièrement dans l'année avec l'organisme Accès Grimpe, qui est un organisme, je pense que c'est le seul à Montréal, qui offre de l'escalade adaptée. Puis on a une date fixée avec eux, un rendez-vous le 13 mars, donc ce sera à partir de 16h, puis c'est au centre d'escalade Allée Up dans Griffintown. Donc c'est une pratique d'escalade adaptée. Les inscriptions sont obligatoires, puis avant le 3 mars, il faut s'inscrire, et c'est un coût de $30 par personne.
Fantastique. Et on termine rapidement avec votre activité de danse expression corporelle.
Oui, C'est un projet pilote qu'on va lancer cette année. On a eu l'idée on avait envie de lancer de la danse parce qu'on a quand même, on sait qu'on a quand même un petit peu de demande, nous, ici au CIVA. Donc, c'est quelque chose qui va se rapprocher, on va dire, de la danse-thérapie. Donc, on y pratiquera notamment des exercices qui vont permettre de s'exprimer à travers la danse, de communiquer à travers le mouvement. Puis, on va voir si la demande est présente, puis si les gens y prennent goût. C'est possible qu'après, on l'intègre à notre programmation régulière. C'est ouvert à tout le monde. On cible pas de groupe d'âge particulier. On cible pas. Il y a pas de restriction dans la limitation fonctionnelle. Encore une fois, appelez-nous si vous avez un doute. Et puis c'est gratuit.
Fantastique. Je vous souhaite une très belle période des fêtes à vous, Carole Froment, et à tous les gens qui travaillent au CIVA. Et au grand plaisir de se reparler dès janvier prochain.
Merci. Je vous souhaite aussi de très joyeuses fêtes. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Francine,
oui.
On a presque fini.
Oh!
Qu'est-ce que vous allez surveiller particulièrement dans les deux prochaines semaines?
Je vais faire vite parce que je sais qu'on a beaucoup de remerciements à faire.
Prenez le temps.
Allons-y. Bien, je vous dirais que, tout le monde va aller jouer dehors, j'espère, s'il y a de la neige, mais à un moment donné, on entre dans la maison et peut-être qu'on peut faire des activités, soit en famille ou, seul, hein, c'est comme on veut. Je vous parle de...
J'aurais des sous-questions, mais je vais les garder.
Bien, gardez-les, oui, c'est ça. Gardez-les pour 2023.
Oui, on va avoir l'occasion de se taquiner encore. Hein.
Certainement. Je vous parle d'abord d'une série documentaire qui s'appelle « L'humain vu par l'intelligence artificielle ». C'est Mathieu Dugal, animateur de l'émission Moteur de recherche à la radio de Radio-Canada, qui a fait créer son double numérique à partir de données personnelles.
Ah, oh, il a fait ça, lui?
Il a fait ça. Mm-hmm. Et vous allez voir le résultat dans une série documentaire de 3 épisodes qui vont être distribués, diffusés sur ICI Explora. Débrouillé le 19 décembre, à partir du 19 décembre, les lundis, donc 3 lundis, dès 21h, c'est 60 minutes pour chaque épisode, sur RDI, les 3, 4, 5 janvier à 20h, encore une heure. Alors, on va voir la jeunesse de l'IA, on va voir l'adulte en devenir, et ensuite l'âge mûr, la sagesse et la désillusion.
La désillusion! Vous connaissez déjà la fin, vous?
Ben, c'est-à-dire qu'on en a parlé, mais malheureusement, c'était pas disponible. Alors, je ne ferais pas croire que je l'ai vu.
D'accord.
Bon, ce que j'ai écouté, par exemple, presque terminé, sur audio, dépeindre Riopel.
Oui.
Vous avez probablement entendu Stéphane Leclerc de Radio-Canada qui en a parlé
beaucoup.
Qui
annonçait le balado, oui.
C'est 7 éléments de 30 minutes chacun. C'est vraiment bon et chacun des éléments sont faits à partir d'une toile de Riopel qui nous amène évidemment dans une phase de sa vie, dans des lieux différents qu'il a connus, parce qu'il en a connu plusieurs, je dirais oui en forêt, oui dans la nature, mais aussi urbain. Alors c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement bien fait et Stéphane Leclerc, il a une voix pour faire ça.
Ah, oh, mon Dieu, oui.
Il y a une voix pour faire ça.
Ben, il y a une très belle voix radiophonique.
Oui. Et pour continuer la tradition, c'est-à-dire ma tradition à moi, mais aussi notre tradition ici de dire qu'est-ce qu'on fait ce week-end.
Oui.
Alors, demain, je me rendrai écouter la chorale Vivace, qui à chaque année fait des concerts de Noël. Cette année, c'est le Messie de Handel. C'est dans tout ce qu'il y a de plus traditionnel, mais c'est intéressant aussi de retrouver cet esprit. C'est à l'église Saint-Stanislas de Costa, 1350 boulevard Saint-Joseph-Est.
Où j'ai été baptisé.
Vous avez été baptisé là. Bon, ben, raison de plus d'y aller. Bon, écoutez, ils vendent leurs billets sur Facebook, mais j'ai trouvé ça bien compliqué pour y aller. Alors, je ne vous le donne pas, mais il y a toujours des billets disponibles à l'entrée. C'est 30$ pour les adultes et pour les enfants de moins de 10 ans, c'est gratuit. Pour les étudiants, c'est 15$. Voilà!
Oui, puis ça me dit quelque chose, cette chorale-là, puis j'arrive pas à savoir pourquoi. Alors, je continue à y réfléchir.
Ben, c'est ça. Pensez-y.
D'accord. De mon côté, pour les choses à prévoir dans les deux prochaines semaines? Évidemment. Bon, ben, il y a demain, il y a la petite finale de la Coupe du Monde.
Petite.
Oui, ben c'est pour savoir. Ça, c'est toujours un peu bizarre. C'est pour savoir qui va gagner le troisième, qui va finir troisième.
Ben oui, mais c'est pas rien, ça.
C'est la Croatie contre le Maroc.
Oui, mais c'est intéressant quand même. Oui, oui. C'est la médaille de bronze, finalement.
Mais pensez-y, la personne qui va gagner, l'équipe qui va gagner quelque chose. Puis l'équipe qui va perdre. Le lendemain, c'est la grande finale. France contre Argentine. Je suis incapable de choisir une des deux équipes. J'aime les deux. Bon. Alors, je ne perdrai pas.
Mais là, je m'excuse, Yvan, vous n'étiez pas pro-France.
Ben oui, je le sais, mais Lionel Messi.
Ah oh, là, vous n'êtes plus capable. Hein,
Lionel
c'est
Messi.
Ça.
Ben, je comprends. Dans le temps des fêtes, Lionel Messi. Il y a quelque chose, là, quand même. Là, j'ai encore découragé Mathieu.
Ça, c'est une blague écrite par un robot, j'imagine.
Oui, c'est ça, c'est de l'intelligence pas artificielle. Alors, donc ça, mais l'équipe qui va perdre dimanche gagne la deuxième place. Mais ils sont découragés parce qu'ils ont perdu.
Ben oui, ils vont pleurer, ça c'est sûr.
Alors, leur dernier match, ils vont l'avoir perdu, mais ils vont gagner la deuxième place. C'est comme ça. Toujours dans le domaine du sport, dans le temps des fêtes, évidemment, il y a le tournoi mondial junior qui a lieu toujours dans le temps des fêtes. Alors, on va patiner dehors, on va faire du ski de fond, on va faire de la raquette, puis là, on rentre, nous, on a un petit chalet, fait qu'on va mettre quelques bûches dans le feu, puis là, on allume la télévision pour voir les équipes juniors jouer. Ça commence le 26 décembre. Ça va avoir lieu à Moncton et à Halifax du 26 décembre au 5 janvier. Et les meilleurs joueurs, entre autres les meilleurs joueurs juniors canadiens, font partie de cette équipe-là. Il y a bien sûr, en début de semaine prochaine, la COP 15 qui va se terminer. On souhaite avec une conclusion extrêmement positive qui va nous amener à changer des choses d'un point de vue national, d'un point de vue provincial, d'un point de vue municipal et même d'un point de vue individuel.
Individuel, c'est très important. Je pense qu'on ne faut pas arrêter de se le répéter. Hein. C'est comme l'histoire de la jeune fille qui a été fauchée. C'est toujours pareil. Oui. Notre responsabilité individuelle, il ne faut pas l'oublier.
Oui. Et je termine, on fait un signe de 2 minutes. Je termine, Francine, en nous disant qu'au mois de mars, on nous a fait un cadeau, vous et moi. On nous a demandé d'animer une émission le vendredi. Et on y prend énormément de plaisir à le faire. Je voudrais qu'on remercie d'abord Hélène Denis qui anime l'émission au quotidien. L'autre émission, là, les quatre autres jours.
Ben, c'est un peu notre mentor, hein? Je pense que c'est oui. Important de le dire.
Exact. Jean-Sébastien à la Liberté, qui est le metteur en onde. Mathieu, qui n'arrête pas de faire des folies en arrière. Mathieu Tessier, qui est à la console, qu'on pourrait remplacer. On pense que des fois, vous ne seriez pas là, puis là, on serait tellement mal pris. Les collaborateurs des différents organismes, Jocelyne Richard à l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain, Vanessa Anne Paré de Moelle-Épinière et Mobilité Québec, Carole Froment avec qui j'ai parlé tantôt du Centre d'intégration à la vie active et notre Steve Joseph de la Fondation des aveugles du Québec. Nos chroniqueurs, Serge Hamelin qui est quelque part dans un Mexique,
il est au Mexique, oui, c'est ça, le chanceux peut-être.
Marcel Dugas en histoire, Monique Kirouac qui nous couvre l'Estrie. Et finalement, j'ai voulu remercier les 4 personnes qui jusqu'à présent ont participé à Au-delà des limites. Il y a André Vincent qui a commencé ça avec le tournoi d'échecs, Kim Auclair, Lise Veilleux et Julie Simard. Voilà, c'est notre premier morceau de saison qu'on termine ensemble. On se reparle le 6 janvier. Nous vous souhaitons une très belle période des fêtes et pour nous, au plaisir de se reparler.